Bonjour,
c'est Jérôme Niel
et Ludovic
dans Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop,
c'est parti.
Yeah.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Vous me connaissez, je suis d'un naturel pudique. Je ne suis pas du genre, moax, à étaler sur la place publique mes tourments intimes, à vous raconter que mon papa me battait au nerf de bœuf, ou à vous faire partager les montagnes russes de ma vie sentimentale, grecque en l'occurrence. Pourtant, aujourd'hui, alors que Catherine Deneuve nous fait l'honneur de nous rendre visite, je ne peux résister au plaisir de vous faire une confidence. Il y a quelques années de cela, alors que je n'étais plus tout à fait un adolescent, mais pas encore tout à fait un homme non plus, dans ce douloureux entre deux, où le bouton d'acné tardif peine à percer sous le poil de moustache précoce, j'étais allé voir Peau d'âne au cinéma. Et j'en étais sorti ébloui, décidé à trouver moi aussi ma princesse, mais une princesse qui aurait eu les traits de Catherine, avec sa robe couleur du temps, ou de la lune, ou du soleil, ou sans robe du tout d'ailleurs, et si possible, sans un papa décidé à l'épouser, la vie étant déjà assez compliquée comme ça. Et là, pour la première et la dernière fois de mon existence, je m'étais fendu d'une lettre d'adoration adressée à Catherine, dans laquelle je confiais mes émois, avec toute la maladresse et la candeur d'un ver de terre s'adressant à une étoile, comme disait Victor. La réponse tarda à venir. En fait, elle ne vint jamais, mais je ne lui en tins pas rigueur. L'apparition de Catherine dans ma vie de cinéphile m'avait laissé sans voix. Il était de bonne guerre que mon mot resta sans réponse. L'eau a coulé sous les ponts, et aujourd'hui, c'est la robe arc-en-ciel qui s'impose, puisque nous recevons enfin Catherine Deneuve.
France Inter. Pop, pop, pop. De
bonjour Catherine, et pardonnez, je vous prie, ces confidences un peu embarrassantes, certes, mais ô combien sincères.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans notre studio. À mes côtés, celle qui raffole des robes couleur de pluie en hommage à sa Picardie natale, Charline Roux.
C'est là encore vous faire des ennemis. Bonjour.
Bonjour Charline. Au menu également de Pop Pop Pop, notre pop chroniqueur Loïc Prigent, que vous connaissez bien Catherine.
Oui.
Si bien d'ailleurs que vous avez lu ses tweets pour Arte.
C'est qui la styliste? Une vieille copine aveugle?
Loïc est de retour et il vient nous parler de la mauvaise foi sublimante des critiques de cinéma. Mais avant ça, Catherine Deneuve. Ici, il existe une question encore plus trash qu'une des fameuses répliques de Loïc.
J'adore cette mannequin. On dirait qu'elle va parler.
Et cette question, c'est... Pour vous, Catherine Deneuve, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses catherinesques, deneuvisantes, iconiquesques et même podanisées. Et parmi mes préférées, il y a celle de Philippe Catherine Deneuve.
Moi, quand je dis pop, je pense toujours au chewing-gum. Mm-hmm. Donc, quand on fait une bulle, que ça explose,
ça claque.
Ça fait pop.
Ouais.
Après, il y a eu des chansons en chewing-gum qu'on mâche à un moment et mm-hmm. puis qu'on peut jeter sans le moindre remords. Et c'est pour moi ça, la pop culture.
Du chewing-gum, donc, pour Philippe Catherine Deneuve, et pour vous, Catherine Deneuve, Philippe?
Pas du chewing-gum aussi, pourquoi pas? Parce que c'est éphémère, c'est vif, c'est présent, c'est concret, c'est aujourd'hui.
Vous avez le sentiment d'être l'incarnation, une des incarnations de cette pop culture?
Ah non, pas du tout.
Mais vous l'êtes?
Ah bon, je sais pas. Non, parce que c'est pas quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit. Même quand vous me le dites comme ça, ça me paraît pas être une évidence, non?
Mmh. Charline.
J'en suis persuadée.
Vous en êtes persuadée aussi?
Oui.
Ah
bah,
nous
bon,
en, bah,
je vais
essayer
de m'en persuader aussi, alors.
La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Become the Tiger. C'est un morceau du nouveau projet de Damon Albarn qui s'intitule Africa Express.
Yeah.
Comme the Tiger, c'est un morceau signé Africa Express, le nouveau projet de Damon Albarn. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une reine de la pop culture, la preuve avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Catherine, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
C'est de pire en pire. Ouais. Aujourd'hui, une invitée que j'aime évidemment pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Antoine, car la voix de la sagesse, c'est vous. Mmh. C'est contractuel, hein, je vous précise. Et une invitée que j'aime encore plus parce que quand elle est rock'n'roll sur les écrans, personne ne peut rivaliser. Non, personne ne se défend comme Catherine Deneuve contre Fanny Ardant.
Mais ça suffit ! Plus ça geste où je tire.
Avant que tout ça ne finisse évidemment au corps à corps avec classe et une certaine volupté, c'était dans 8 femmes. Personne ne menace d'une carabine des fâcheux voulant du mal à Nekfeu comme elle le fait dans Tout nous sépare. Personne ne règne comme elle, que ce soit sur l'Angleterre, entourée de petits chiens maltraités dans Astérix au service de sa majesté, ou comme dans Palais Royal, sur un pays fictif censé être mené par son fils un peu bonnet et du coup, bah, pour la relaxation, rien ne vaut la calligraphie.
Mais hier par exemple, j'avais un petit coup de mou, j'ai fait toute une série de paix, ça m'a bien détendue.
Et je dois dire que ça me réjouit de préciser que ce rôle et donc cette phrase ont valu à notre invitée une nomination au César, qu'elle aura pas ailleurs hein, deux fois, non pas pour ce rôle, mais pour celui d'une femme drôlement culottée, mignon euphémisme hein, pour parler de la Marion Stenner du dernier métro, ainsi que pour son interprétation d'une autre femme à fort tempérament, celle d'Indochine. Bref, ne pouvant en si peu de temps raconter toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut aimer notre invitée, je conclurai ce sommaire portrait en disant que j'aime Catherine Deneuve parce qu'en réalité, je vous trouve très punk.
Mmh. Ah bon ? Quel est votre degré de punkitude, Catherine ?
Je ne sais pas, on va peut-être voir ça aujourd'hui, ce soir.
Non, mais il n'y a pas de... Vous aimez jouer ?
Oui, c'est ça, je veux dire, je n'ai pas un cadre très, très, très précis autour de moi ou de ma personne. Mmh. Je peux déborder, oui, je peux me déborder, donc je peux me tromper aussi.
Et vous aimez jouer avec votre image ?
Oui, enfin, j'aime bien qu'on n'essaye pas de me fixer en m'appelant madame ou la grande... La grande dame du cinéma français, ça c'est l'expression que j'aime le moins dans ma profession.
On va essayer d'éviter, Charline.
Merci. Promis.
Alors, Catherine Deneuve, nous le disions, vous êtes une icône pop et la pop culture vous adore. Est-ce réciproque ? Pour le savoir, on va passer à votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi « Lettre à un jeune poète » de Briefe ein einen jungen Dichter, en allemand, de Rainer Maria Rilke, paru en 1929. Charline, les lettres ont bien été postées, les avez-vous reçues ?
Ah bah non, vous savez, les vacances, les jours ouvrables, fériés, tout ça, puis c'est pas marqué la poste ici. Le livre est un guide spirituel sous forme de correspondance que Rainer Maria Rilke a écrit à l'attention d'un jeune homme qui lui avait demandé s'il devait consacrer sa vie à la poésie.
Bien. Catherine, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Je vais vous lire un extrait du livre. Tout ce que je pourrais vous dire moi-même sur votre penchant au doute, sur les difficultés que vous éprouvez à accorder votre vie extérieure à votre vie intérieure ou sur tout autre, je vous l'ai déjà dit. Je ne puis que formuler une fois de plus le vœu que vous trouviez assez de patience en vous-même pour supporter et assez de simplicité pour croire. Confiez-vous toujours davantage à ce qui est difficile et à votre solitude. Pour le reste, laissez faire la vie. Croyez-moi, la vie a toujours raison. Rainer Maria Rilke.
Vous préférez lire les textes de Rainer Maria Rilke ou ceux de Loïc Prigent ?
Mais j'aime les deux. J'aime les deux.
Mon général.
Non mais c'est vrai. Non mais ça n'a absolument rien à voir. Mm-hmm. Rilke, c'est quelque chose qui m'accompagne, si vous voulez, auquel je pense. Enfin, je peux pas dire souvent, mais de temps en temps, que je peux retrouver comme ça chez moi. J'ai des phrases de lui comme ça qui sont sur des choses que je peux voir facilement presque tous les jours.
Ça fait partie de ses textes à ce point intemporel qu'on
y revient
toujours.
Ah oui, pour moi, oui. Puis c'est quelque chose de tellement profond et doux en même temps.
Mm-hmm. Et ces conseils qu'il donne à un jeune poète, c'est des conseils
qui sont absolument merveilleux.
Qui sont toujours d'actualité, c'est des choses que...
Oui, parce que c'est quand même basé sur la modestie, la modestie, la patience, et surtout la modestie. Donc je trouve que c'est tout à fait, intemporel.
C'est plus difficile d'être modeste quand on est Catherine Deneuve ? Que quand on est...
Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas quelqu'un d'autre, moi. Non, mais je ne suis pas quelqu'un d'autre, donc je ne veux pas savoir. Mais moi, je suis peut-être pas la plus modeste, mais je ne suis pas immodeste non plus. Moi, je suis d'une famille nombreuse. Mmh. Donc, des filles élevées ensemble et élevées comme ça, c'est pas... Je n'ai pas eu de raison particulière, vous voyez, de perdre la simplicité, j'espère, que j'ai dans mes relations aux autres.
Bien, alors j'ai un livre, maintenant il me faut un film. Pour le film, Catherine Deneuve, vous avez choisi La nuit du chasseur. C'est un film réalisé par Charles Laughton en 1955. Charline, Ce n'est pas vous qui n'avez que deux posters dans votre chambre à coucher, un de Robert Mitchum et un autre de moi. Ce choix va étonner, j'espère.
On parlait quoi, d'humilité, il y a un instant? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ceci étant, c'est pas tellement étonnant. Vous avez de vrais points communs, Antoine, avec ce pasteur psychopathe tout juste sorti de prison qui poursuit sans relâche deux gamins dans l'Amérique rurale.
Here is all the stark terror, the passion and suspense of the best-selling novel that gripped millions.
Where's the money here?
But I swore I promised John I would tell.
John doesn't matter!
The combined powers of Paul Gregory and Charles Laughton. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter.
La nuit du chasseur. Catherine Deneuve, vous aimez les...
Serial killer.
Un serial killer?
Yes.
Yes.
Enfin, oui, j'aime bien les films qui font un peu peur, bien sûr, oui.
Et ça, c'est un film de référence absolue, hein, La Nuit du Chasseur.
C'est à la fois un film qui fait peur et en même temps, c'est un film très très poétique, enfin oui. Très très féerique. Oui. Il y a vraiment des effets d'image assez incroyables. Et je me souviens la première fois que je l'avais vu, j'avais été vraiment sidéré. Mm-hmm. Ah oui.
Mais c'est un conte. C'est un.
Oui, voilà. C'est plutôt un conte. Oui.
Un conte noir
et un conte très sombre. Oui.
Terrifiant. Très,
bon. Non, c'est une très belle histoire, magnifiquement filmée, dans un noir et blanc absolument ouais. Incroyable.
Vous l'avez vu très tôt, après sa sortie?
Non, parce que je ne sais pas, il est sorti en quelle année?
55, je crois.
Ah oh, oui, non, je l'ai vu beaucoup plus tard. Ouais. Ouais.
Et ça vous a impressionné tout de suite?
Oui, ah oui. Ouais, oui, je l'ai vu plusieurs fois.
Bon, petit traumatisme. Voilà, Catherine Deneuve, pour la série, vous avez choisi Le Bureau des Légendes. C'est une série créée par Éric Rochand, diffusée depuis 2015 sur Canal+. Charline, une légende qui choisit Le Bureau des Légendes. Est-ce que c'est pas tout à fait logique?
Une pléonastique même, Antoine. Le Bureau des Légendes est un département de la DGSE qui forme et pilote des clandestins, soit des agents du renseignement extérieur français en immersion dans des pays étrangers. Le meilleur d'entre eux s'appelle Guillaume Debailly, dit Malotru, et il leur pose quelques soucis.
Une légende n'est pas éternelle. Une légende n'est pas réelle. Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.
Le Bureau des Légendes, le choix de Catherine Deneuve en ce qui concerne les séries, est-ce que vous binge-watchez, comme disent les millennials?
C'est-à-dire
regarder en cascade. Une série vous bouffez 8 épisodes d'un coup.
C'est-à-dire, voilà, oui, c'est ouais. Ça. Moi, je peux pas regarder un épisode ou deux et puis attendre. Donc, je préfère attendre, vraiment attendre et puis en avoir au moins 4. Mais j'en regarde pas plus de 4, hein, quand même. Mm-hmm. Parce que, au bout de 4, ça fait quand même, ça fait presque un peu plus de 2 heures. Donc, ouais. C'est déjà pas mal.
Alors, les mérites particuliers de ce Bureau des Légendes à vos yeux?
Je trouve qu'il est très, très bien écrit. Mm-hmm. Ce qui est quand même, très bien écrit, avec des personnages très étonnants, et il est remarquablement interprété.
Ouais.
Tous les acteurs sont absolument formidables, vraiment. Ça, c'est d'une qualité, c'est étonnant. Et puis, c'est d'une richesse de l'histoire. Enfin, moi, j'attends, je sais qu'il va y avoir encore une série là qui va sortir, j'attends ça avec impatience, je dois dire.
Et le fait que ça parle avec un écho aussi rapide du monde dans lequel on vit en ce moment?
Mais oui, justement, c'est ça qui est la force de la série, c'est qu'elle est très, très contemporaine, vraiment, ouais, elle est très actuelle et elle raconte des choses que nous ne savons qu'en partie. Mm-hmm.
Vous aviez joué dans la série Nip Tuck? Quel souvenir?
Oui, j'ai fait une apparition.
Oui.
Très bon souvenir. Mm. Oui, j'ai fait une apparition, j'ai tourné 3 jours, c'était très amusant, j'aimais beaucoup la série Nip Tuck.
Oui. Mm. On vous en propose beaucoup, des rôles dans des séries?
On m'en propose un peu, oui.
Mais non.
On verra.
Bien, terminons cette pop-liste avec la chanson, et cette chanson, c'est celle-ci.
On reste, Dieu merci, à la merci d'une étincelle, quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure!
Superbe de Benjamin Biolay, cet extrait d'un double album du même nom paru en 2009. Alors vous avez face à vous Charline qui est en adoration, disons le mot, hein, devant un Benjamin
c'est
Biolay.
C'est un des plus beaux albums.
Ah oui, je suis d'accord. Ouais.
Ton héritage est la plus belle
ton
chanson
héritage,
sur la
oui.
transmission jamais
oui,
écrite.
Oui, ça c'est vraiment une chanson magnifique. Il y a aussi la chanson sur la séparation. Il se
Rentre Rhapsody.
Oui.
Les post-it
sur le frigo. Oh, je trouve qu'elle est vraiment écrite d'une façon, cette chanson. Moi, c'est un album que j'écoute souvent. régulièrement.
Ah, c'est l'album que vous choisissez, c'est pas la chanson en particulier, la
C'est cette chanson-là, c'est aussi ton héritage, enfin c'est oui, c'est plutôt l'album, oui.
Et alors Biolay supplante Gainsbourg.
Mais Gainsbourg, on l'entend beaucoup. Ah, vraiment, on l'entend beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup entendu. Non, mais j'adore Gainsbourg. C'est pas le problème. Mais cet album, quand je l'ai entendu, il m'a apporté quelque chose. Il m'a mis dans un état de fébrilité et de joie en même temps, incroyable. Donc, c'est vraiment un album que j'adore réécouter avec ces deux chansons-là particulièrement, oui.
Bien. Mais je crois que ma pop-liste est complète. Hein. Je résume. Lettre à un jeune poète, La nuit du chasseur, Le bureau des légendes et Benjamin Biolay. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture.
Et qu'est-ce que ça donne?
Eh ben, ça donne ça.
Une légende n'est pas éternelle.
On reste, Dieu merci, à la merci d'une étincelle.
Une légende n'est pas réelle.
Here is all the stark terror.
Quelle aventure.
The passion and suspense.
Confiez-vous toujours davantage à ce qui est difficile et à votre solitude. Pour le reste, laissez faire la vie.
Time doesn't matter.
Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.
Of the hunt.
La sueur.
Et voilà la recette de Catherine Deneuve.
Ah, vous êtes très fort pour le mixage.
Un petit cake d'amour de pop culture.
Oui, ça me plaît très, ça me plaît beaucoup ça.
Écoutez, c'est Ghislain Fontana qui rosit derrière sa vitre.
Oui, c'était quand même rapide.
Oui, c'est très rapide, c'est un garçon très rapide. Alors Catherine Deneuve, avant de parler de vous avec vous, on va écouter un artiste avec lequel vous avez joué Nekfeu en featuring avec Vanessa Paradis sur ce morceau, C'est dans l'univers.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de vies, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de vies, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies. Sur Terre 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un
jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon oui.
Pop-pop, Antoine Decaune sur France Inter.
Et passons de l'univers de Nekfeu à celui de Catherine Deneuve. Oh, j'ai l'impression qu'il est un peu mou du genou, mon lancement là. Oui. Comment ils font les Américains?
My next guest is a legend of the cinema. Please welcome Catherine Deneuve, everybody.
Ouais, bon, d'accord. Évidemment, c'est mieux. Évidemment. D'accord. Alors, Catherine, vous faites partie de ces gens que l'on a envie d'inviter pour le seul plaisir de passer une heure en leur compagnie, quel qu'en soit le prétexte. Et aujourd'hui, le prétexte est double, puisque vous êtes à l'affiche de Fête de Famille, le nouveau film de Cédric Kahn, et présidente du Festival du film américain de Deauville, sans même parler de La Vérité, le film de Kore-eda, avec lequel vous avez ouvert la Mostra de Venise il y a 3 jours, film dans lequel vous jouez le rôle d'une actrice excessive. Fin de citation. C'est quoi d'ailleurs une actrice excessive?
Dans le cas du film de Kore-eda, je dirais que c'est une actrice un peu une actrice comme moi, j'imagine, et pouvait être les actrices dans les années 50 aux États-Unis, enfin très auto-centrée, mais à un point vraiment. Et puis qui a un franc-parler en même temps. Enfin, c'est assez horrible, quoi. Elle peut dire des choses assez horribles. Elle a des très mauvaises relations avec son entourage et surtout avec sa fille.
Mmh. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Pas à ce point-là, je pense pas, non.
Non.
Je peux pas imaginer que ça existe à ce point-là.
Ça a basculé dans la musique.
Vous avez des noms en tête?
Mariah Carey.
C'est audacieux comme comparaison. Vous dites, j'ai toujours autant de joie et de peur à débuter un tournage. Alors avant de vous glisser dans la peau d'Andrea, votre personnage dans Fête de Famille, qu'est-ce qui vous faisait peur et qu'est-ce qui vous mettait en joie?
Alors, ce qui fait peur, c'est toujours de commencer un nouveau film, franchement. Et en même temps, ce qui m'attirait, c'était le fait de tourner un film avec beaucoup d'acteurs. Donc on soit vraiment comme une équipe une troupe de théâtre plutôt, je veux dire. Donc c'est ça qui m'attirait, mais en même temps, c'est ça que je redoutais un petit peu. Et ce qui me met en joie, c'est à partir du moment où on est sur le plateau, qu'on commence à répéter, qu'on voit la scène. Et puis bon, Cédric Kahn est quelqu'un de très chaleureux, donc c'était vraiment, il y avait une ambiance formidable. Parce que c'est vraiment ce qu'il veut, et en même temps, c'était très vivant et très simple. Et sans... Mais il était très exigeant. Et comme il y avait beaucoup d'acteurs dans le film, presque toujours ensemble, il avait beaucoup préparé le film, d'autant plus qu'il joue... Il joue un de mes fils dans le film, donc c'était quand même assez lourd comme rôle.
Dans Fête de Famille, vous partagez l'affiche avec Emmanuel Berco, Vincent Macaigne et Cédric Kahn. Donc, et ce n'est pas de vous que vient l'excès, vous êtes même plutôt celle qui essaie de calmer le jeu et de faire la paix.
Oui,
est-ce que c'est un rôle de composition?
Pas tout à fait, moi je suis du signe de la balance, j'aime bien que les choses soient assez équilibrées, qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, surtout dans des circonstances comme ça, c'est une réunion de famille pour un anniversaire, le mien d'ailleurs en l'occurrence. Donc on a envie que les choses se passent à peu près bien, mais de toute façon on sent bien que c'est une femme qui a dû quand même beaucoup essayer d'arrondir les angles tout le temps, qui a une fille qui est quand même assez particulière, il y a sûrement des choses qu'elle n'a pas voulu voir et sur lesquelles elle est passée, et puis elle a un fils aussi qui est assez aventurier, parce que le rôle de le personnage de Vincent Macaigne, enfin moi j'adore, il est très drôle, mais c'est vraiment très excessif.
Qui lui-même met en scène, en fait,
déjeuner de famille,
ce repas.
Et vous la voyez d'ailleurs purement comme une femme qui tente d'apaiser, de soigner, ou aussi comme une mère un peu toxique à sa façon.
On est toxique quand on réussit pas à être soignante, hein, quand même. On est un peu toxique parce que le rôle des mères, ce serait quand même d'empêcher justement. Oui, je crois qu'on est tous un peu toxiques de toute façon. Même ceux qui sont les mieux intentionnés. Peut-être même ceux qui sont les mieux intentionnés.
Sont les plus toxiques.
Faut pas en faire trop, oui.
Le jour de votre anniversaire, donc, votre fille aînée, disparue depuis 3 ans, fait une soudaine réapparition, décidée à prendre ce qui lui est dû. Cette réapparition va bouleverser la famille et raviver les tensions. Bande annonce.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. On est bien là, non?
J'ai l'impression que ça vous arrange bien de penser qu'elle est folle.
Si, je t'assure, elle est 100% folle.
Bon bah alors on vend.
Tu veux pas qu'on en discute tranquillement tous ensemble?
Je fais ce que je veux.
Ça va partir en sucette exactement comme d'habitude.
Ça va?
Ça ne va pas, maman.
C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille.
C'est quand même quelque chose de nous voir tous réunis avant que tu passes l'arme à gauche.
Alors curieusement... Il y a un point commun entre La Vérité que vous venez de présenter à Venise et Fête de Famille. Il s'agit des retrouvailles entre une mère et sa fille, illustration dans les deux cas de l'expression « faire sa fête ». C'est toujours tendu les rapports mère-fille ou c'est pour les besoins du scénario ?
Écoutez, moi personnellement, c'est tellement pas, je veux dire, mon univers dit ce que j'ai vécu, dit ce que je vis, qu'évidemment, pour moi, j'ai toujours l'impression, là, franchement, c'est un rôle de composition. Mais ça peut être tendu par moments, mais bien sûr, surtout quand on a des relations un peu fusionnelles, c'est évidemment plus compliqué. Mais non, moi, j'ai plutôt eu des relations très, très, très heureuses et très positives avec ma fille.
Il n'y a pas qu'entre Andrea et sa fille que les rapports sont compliqués, sans poser de diagnostic trop hâtif, on peut parler de famille un peu dysfonctionnelle. Ils sont à la fois très violents, les rapports au sein de cette famille sont aussi très drôles étrangement. C'est le double aspect qui vous a aussi séduite dans leur rapport.
Oui, absolument. C'est ce qui me plaisait beaucoup dans le scénario. C'était cette espèce de mélange, cette brusquerie à changer d'un seul coup de ton, qu'une chose qui était partie pour être une chose comme ça, anecdotique, devienne une espèce de drame qui se termine très mal. Oui, parce que dans les familles, quand on est nombreux et réunis comme ça à l'occasion de fêtes, c'est souvent ce qui se passe quand ça dérape.
Mmh. C'est une hantise en fait, ces fêtes de famille, quand on y réfléchit.
Oui, mais moi je serais un peu comme le personnage du film, Andrea. Je pense qu'il faut quand même essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc souvent les plus jeunes, après la génération plus jeune, disent « Oui, mais alors on se parle pas vraiment, personne dit vraiment ce qu'il pense, on n'est pas vraiment... » Oui, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour passer un moment ensemble. C'est une façon aussi de revivre un peu les souvenirs du passé et de la vie qu'on a eue et qu'on idéalise un peu. Oui.
C'est en ça qu'ils sont très surprenants, parce qu'ils parlent tous beaucoup, mais ils ne se disent rien.
Mais comme souvent dans les réunions de famille nombreuses.
Le film de famille est presque devenu un genre en soi, si l'on considère le nombre de films qui jouent sur ce principe, de Festen à Un air de famille, en passant par Milou en mai, La famille Adams, La vie est un fleuve tranquille, La famille Bélier, bon, il y en a plein. Aller voir une famille régler ses comptes au cinéma, c'est reposant au bout du compte, ça console le spectateur.
Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Je ne sais pas, moi je sais que quand j'avais vu Festen, j'avais eu un choc terrible. Donc c'était vraiment une idée vraiment de la famille tout à fait. Mais c'est-à-dire que c'est sans fin. On peut, je crois, raconter, on pourrait montrer 10 films sur la famille et je pense que ce serait 10 films différents. Parce que c'est sans fin les rapports et les difficultés de se parler ou de ne pas se parler ou de faire rejaillir le passé ou d'envisager le futur. C'est un domaine très riche.
Mais c'est devenu un genre en soi.
Oui, mais je peux comprendre,
Avec sa grammaire, avec ses codes, avec...
Oui.
Et dans le registre des films sur la famille, quel est, vous, votre film de référence ?
Sur la famille ?
Oui.
Voilà une question... C'est une question vaste en même temps. Donc je cherche un film sur la famille qui m'aurait... Je ne sais pas. Je ne veux pas dire les filles du docteur Marsh, quand même.
ça fonctionne.
Non, là franchement je vois pas.
Bon, qui dit famille dit névrose. Le cinéma est une grande famille, hein, comme on dit souvent. Un petit bilan de 2019 sur l'état des névroses du cinéma français.
Une grande famille, c'est vite dit, hein, quand même. Ce sont quand même beaucoup des familles avec des éléments rapportés, donc c'est pas tout à fait la grande famille qu'on imagine, mais c'est quand même l'image toujours qu'on veut donner de toutes les professions. D'ailleurs, quand elles font des fêtes de fin d'année, on a l'impression que le PDG va embrasser sa secrétaire, qu'il l'embrasse comme ça tous les jours. Le garçon du bureau d'à côté, qui est jaloux comme un fou, va être d'un seul coup complètement au genou de sa voisine et qui est en vérité sa concurrente. Non, il y a quand même une façon de montrer la famille en général qui est quand même pas tout à fait la vérité. Donc la grande famille du cinéma, elle est comme les autres, je veux dire, elle est très hypocrite aussi,
traversée par les mêmes courants.
Oui, et puis hypocrite.
Fête de famille, c'est un film où ce sont les femmes qui mènent la danse. Il était temps, dit Cédric Kahn. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ben oui, c'est vrai, mais enfin on sait bien que dans les familles, la mère est toujours le pivot central de la famille, en sachant qu'après ça, le film peut très bien s'écarter complètement et partir dans des directions qui n'ont plus rien à voir avec... Mais c'est vrai que la mère reste toujours quand même au centre de la famille. Le matriarcat, c'est pas fait pour les chiens. Hein.
Vous avez eu le loisir, au fil des années, Catherine, de voir évoluer la cause des femmes dans le monde du cinéma. Est-ce que vous pensez que les choses bougent dans le bon sens et surtout suffisamment rapidement ?
Écoutez, je trouve qu'en Europe, on est quand même mieux loti qu'en Amérique. Parce qu'en Amérique, c'est vrai que c'est quand même très excessif et c'est très marqué. Je pense que les choses bougent. Oui, bien sûr que les choses bougent. Suffisamment, ça revient de loin quand même. Ça, il y a beaucoup de choses à faire, à abattre quand même avant d'arriver. Ne serait-ce qu'à l'égalité salariale homme-femme, qui serait quand même la chose qui serait la plus évidente quand même d'une société très évoluée. Mais ça bouge, oui, ça bouge.
Votre fille dans le film est incarnée par Emmanuel Berco, qui vous a déjà dirigé deux fois, bientôt trois si je ne m'abuse. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre manière de jouer ensemble? Et qu'est-ce qu'elle a comme réalisatrice que les autres n'ont pas, puisque vous allez donc retourner avec elle une troisième fois?
Alors ça a sûrement simplifié, facilité je dirais même plutôt les choses, parce que c'est vrai que je la connais, je la vois dans la vie, c'est pas seulement quelqu'un avec qui j'ai tourné deux fois, c'est quelqu'un que je vois maintenant depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un, une personne à laquelle je suis très attachée. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup ses films, j'aime son univers, et j'aime beaucoup le fait qu'elle travaille énormément. Donc ça peut paraître un peu idiot de dire ça, mais sur le plateau, quand on arrive pour répéter, elle n'abandonnera jamais, elle fera autant de prises qu'il le faut, et elle travaille beaucoup en amont, donc elle est vraiment, c'est comme, quand elle est sur le plateau, c'est vraiment, elle est comme un petit chef de guerre, hein, elle est très entière et très excessive même parfois. C'est vraiment. Mais j'aime beaucoup son univers et j'aime beaucoup la façon dont elle montre les choses. J'aime ce dont elle parle. Voilà, je crois que j'aime toute cette femme.
Catherine Deneuve, depuis Huit femmes de François Ozon, on ne vous avait pas revue dans un film choral comme Fête de famille. Quel plaisir particulier prenez-vous à ne pas avoir à porter seule sur les épaules un film?
Mais c'est pas tellement le fait de porter le film, parce que ça, finalement, quand on tourne, on est tellement concentré sur ce qu'on fait, là, les scènes, qu'on n'y pense pas vraiment. Mais c'est le plaisir de jouer avec plusieurs acteurs, d'être avec d'autres acteurs, et le fait qu'en effet, on n'est pas au centre, disons, de l'attention tout le temps. Donc ça, c'est assez agréable, oui.
Vous avez joué plus de 120 rôles. Vous avez été aveugle, muette, amputée, meurtrière, vampire, mère de famille, fille-mère, lesbienne, alcoolique. Mais finalement, vous dites que le rôle le plus courageux que vous ayez incarné, celui de mère de famille, car je vous cite, c'est plus difficile de faire passer les choses. En quoi est-ce plus difficile?
Alors, je parlais de quel film?
De celui-là, en l'occurrence.
Ah, de celui-là. Oui. Mais oui, parce que j'ai pas grand-chose à faire de particulier, disons, dans cet univers. Donc, c'est plus difficile d'une certaine façon, parce qu'il y a moins d'occasions de faire une démonstration de ce que l'on est ou de ce que l'on pense. Enfin, ceci dit, plus difficile, il y a quand même certains films que vous avez cités qui ont été quand même très difficiles. L'alcoolisme, je trouve que c'est très difficile, parce que c'est une tentation qui peut aller très vite dans l'excès, et c'est très difficile, je trouve. C'est très attirant, hein, tous les acteurs ont envie de jouer, ou les actrices, un jour, un rôle d'alcoolique. Mais je trouve que c'est très délicat, c'est très intéressant.
Est-ce que tous les alcooliques ont envie de jouer le rôle d'un acteur?
Je ne sais pas.
C'est une question stupide.
Il y en a. Hein.
À Deauville, des noms, Catherine Deneuve. À Deauville, où vous allez être présidente, je paierai très cher pour être une petite souris quand Catherine Deneuve va se retrouver immanquablement à dîner avec Jenna Rolands. Qu'est-ce que Deneuve et Jenna Rolands
vont ça, c'est une belle surprise. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais enfin, c'est évident que j'aurai des choses à lui dire. C'est une actrice que j'admire beaucoup.
Imaginez que je suis Jenna Rolands.
Ce sera privé, je veux dire, je vais pas d'emblée l'attaquer comme ça en lui posant des questions sur ses films et tout ça, non. C'est ça qui est agréable, c'est au cours d'un dîner, on a le temps quand même de se parler autrement et puis ensuite d'aborder des choses plus personnelles.
Elle fait partie de vos actrices emblématiques, je sais que vous aimez beaucoup Meryl Streep.
Oui, beaucoup, oui.
Il y a qui dans cette liste?
Dans cette liste, il y a Kim Basinger. Oui. Que je trouve, on ne voit plus assez au cinéma, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la seule actrice qui me rappelle vraiment Marilyn Monroe, d'une façon vraiment véritablement pas seulement pour son physique, mais pour sa façon de jouer, sa façon d'être. Il y a une espèce de douceur comme ça. Donc voilà. Bon, il y en a beaucoup, des acteurs et des actrices étrangers, américains ou anglais, oui.
À la question, avez-vous des tabous cinématographiques? Vous aviez répondu oui, les films gore et les films ordinaires. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, je suis pas une fan des films gore, ça c'est sûr. Oui, non, je suis pas. Alors, j'aime beaucoup les films de Tarantino, donc je vais les voir quand même, évidemment. Mais il y a des moments où je vois ce qui arrive et je baisse les yeux. Oui, ça, je dois dire que c'est. Mais je vais quand même voir ces films.
Et un film ordinaire?
Ben, un film ordinaire. Alors là, j'ai rien à dire. C'est un film qui. Un film sans ambition, sans parti pris, sans où je ne sens pas le metteur en scène. Vouloir particulièrement quelque chose plus qu'une autre. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est une chose sans intérêt, quoi.
Vous avez déjà vu le nouveau Tarantino?
Oui.
Et alors?
C'est incroyable. Incroyable. Alors, je sais qu'il voulait absolument pas qu'on raconte la scène de la fin.
On ne la racontera pas.
On ne la racontera pas. Je peux comprendre pourquoi, mais tout ça est quand même un peu. Je trouvais que le personnage de Sharon Tate n'était pas assez développé, quand même, pour le faire régner comme ça pendant tout le film.
Oui.
Mais le film est incroyable, c'est un cinéaste incroyable.
Ouais. Et ce jeu avec la réalité, avec des événements dramatiques de la réalité qui sont...
Oui, mais il fait ça très très bien. Ouais. Ça, c'est...
D'accord. Vous avez remarqué, je n'ai rien spoilé, comme on dit.
Non, absolument, non. C'est très bien.
Ça aurait été tellement facile de dire que... Bon. Oui. Catherine Deneuve, vous savez faire plein de choses, est-ce que vous savez faire ça?
Non, mais j'aimerais tellement. Il faut que j'essaye après l'émission, vous allez me montrer. Non, j'aimerais
après
bien.
Après l'émission?
De même que je ne sais pas siffler, j'aimerais savoir siffler ouais. aussi.
Bon, alors je le fais pour vous. Voilà, c'était pour lancer les Pop News.
Bah oui, ça c'est bien. Non, je ne sais pas faire ça.
Et si l'une des séries les plus drôles de l'été ne se regardait pas, mais s'écoutait? C'est mon avis et je m'en vais le partager. Cette série, c'est Mystère à Saint-Jacques et c'est à François Descraques, créateur entre autres du Visiteur du Futur et de Deadland, deux séries à regarder, qu'on la doit. Pour ce feuilleton audio de type podcast un peu barré et mi-écrit, François Descraques, créateur et narrateur de ces mystères, raconte à ses invités, comédiens, les situations à jouer et des invités qui découvrent aussi au début de l'épisode le personnage qu'ils auront à incarner. Ici, Florian Dorin et Flodric Ballenbois, ils se réveillent dans une chambre d'hôpital très désorientée. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé et quelqu'un entre dans sa chambre. Mais qui? Qui étant Monsieur Poulpe?
C'est finalement le docteur Benoît Juton qui entre dans la chambre. Il est ravi de voir Flodric qui s'est enfin réveillé. Après tout, ça fait 25 ans qu'il est dans le coma. Le docteur Juton lui explique comment est le monde en 2044. Et attention, et il entre maintenant.
Bonjour, bonjour. Oh! Mais vous êtes réveillé, alors ça, j'en crois pas mes paupières laser. Incroyable.
Et vous n'en saurez pas plus, le feuilleton de l'été continuera après le mois d'août au rythme d'un épisode toutes les deux semaines, dont un en public avec des invités prestige, le 21 septembre à Avignon, dans le cadre du Frames Festival. Pour réserver framesfestival.fr, et le feuilleton est à retrouver sur vos applis de podcast habituels et sur YouTube.
Un album inédit signé Miles Davis, enregistré en 1985 à Los Angeles, studio American, et perdu après le départ du mythique trompettiste de Columbia Records pour la Warner. L'un des titres de cet album, Rubber Band, était sorti pour le Record Store Day. Le voici désormais en entier, petit extrait. Miles Davis, très funk, l'album Rubber Band sortira le 6 septembre.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, écoutez la bonne parole, celle de Lenny Bellardo, pape en slip, au doux trait de Jude Law, marchant au ralenti sur une plage au son de ceci. Et ce, entre deux rangées de volleyeuses et autres femmes en pamoison, on les comprend, c'est ce qu'on voit dans le teaser de The New Pope, série signée Paolo Sorrentino, qui fait suite à The Young Pope, et pendant que Jude marche sur la plage, en réalité son P13 est dans le coma, et Sir John Braddock, John Malkovich, accède au trône papal. La suite, ce sera bientôt sur Canal+. En attendant, la bande-annonce Plaisir des yeux est à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Jude Law en slip.
Oui, Jude Law en slip, bien sûr. Merci, Charline. Catherine Deneuve, vous restez avec nous. Et avant d'accueillir Loïc Prigent dans la suite de Pop, on écoute Lebanon. C'est un nouveau morceau de l'artiste kényan J.S. Ondara.
In the water, fire, I'll go. Valley in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water? Since you heard from Jesus, of his chosen man. man. Hey, love, you twist and turn till your colors wither, then they'll.
À Lebanon. C'est un morceau de J.S. Ondara, cet extrait de l'album Tales of America. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah, voilà, nous sommes toujours en compagnie
ça, c'est bien.
De Catherine Deneuve, qui s'est engagée à apprendre à faire juste à la fin de l'émission.
Je peux vous apprendre à siffler avec les doigts.
Voilà. Allez-y.
Chacun ses compétences.
Ah, vous le ferez aussi à la fin de l'émission,
bah,
d'accord.
Oui. Oh, mais je ne suis pas parti encore.
Et vient de nous rejoindre Loïc Prigent. Bonjour Loïc.
Hey, bonjour. Mais
bonjour.
Je ne vous présente pas évidemment tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Oh, mais... On est loin, je ne vais pas aller lui serrer la main.
Bon, alors, Catherine, je vais laisser la parole à Loïc dans un instant, mais je sais que la pop culture pour vous, c'est... Non, effectivement, on ne l'a pas. Non, c'est votre définition de la pop culture. Mais pour moi, comme pour Jean-Paul Gaultier, la pop culture, c'est vous. Au-delà du cinéma, vous avez chanté avec Serge Gainsbourg, Björk, Gérard Depardieu, Étienne Dao, Julien Doré, Tommy Boxy, joué avec David Bowie, et votre nom est associé à tout jamais avec un numéro, le 5.
Don't ever change anything. Chanel No. 5 never has. There are no words for this mystery. We know what it is. Chanel.
Donc, on est d'accord. Icône pop, c'est incontestable.
Bon, mais d'accord.
Loïc.
Icône mode, aussi.
Icône mode, icône pop, icône tout.
Icône mais punk.
Ah, oui.
Punk, bon. Voilà. C'est total, oui. C'est complet.
Oui.
Bon, Loïc, c'est à vous de jouer, là. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Bah, de cinéma, puisque Catherine Deneuve, je crois qu'elle fait aussi du cinéma. Mm-hmm. Donc j'ai feuilleté la presse cinéma et ça m'a permis de renouveler mon admiration sans borne pour mes collègues, les critiques de cinéma. Mm-hmm. Parce que, au fond, qui a plus de mauvaise foi qu'un homme politique en campagne électorale ?
Un critique de cinéma.
Voilà. Qui a plus de mauvaise foi, qui a un meilleur vocabulaire qu'un académicien saoul ?
Un critique de cinéma.
Et qui ment mieux qu'un producteur de cinéma ?
Un dentiste. Sujet. Excusez-moi, Loïc.
Un critique de cinéma. Ce qui est récurrent et merveilleux chez les critiques de cinéma, c'est sa propension à défendre l'ennui au cinéma. Mmh. Alors, tu ne dis pas que le film n'a pas vraiment d'intrigue. Tu dis, le film creuse la fureur dans un rayonnement noir.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Mais c'est que des phrases que j'ai lues dans la presse. Critique de cinéma, hebdomadaire et mensuel, qui est en ce moment en kiosque.
D'accord.
Donc c'est des films de cette semaine.
Actuellement,
de cette semaine ou ce mois-ci.
D'accord.
J'étais dans mon relais H à Morlaix hier, on va venir prendre le train.
On va essayer de deviner les films, je suis pas sûr que...
Alors on ne dit pas, ce n'est pas de l'ennui, on dit le volontarisme dilatoire de la réalisatrice nous plonge dans un bain graphique hallucinatoire au style hypertrophié, somptueux carnet de croquis, alternant fulgurance et pages creuses.
Eh ben, ouais. Ça va très loin.
Tu ne dis pas c'est incompréhensible.
Non.
Ce serait trop simple. Tu dis on est emporté par la narration singulière et labyrinthique tout en ellipse. Tu ne dis pas c'est un film sans scénario qui fout le cafard. Mm-hmm. Tu dis bon, vous accrochez-vous. Hein. Le réalisateur a fait de la banale trivialité du quotidien, de sa quiétude, de ses silences, virgule, la substance même de son art, point. Son dispositif, tout droit dirigé vers une forme d'abstraction envoûtante, transcende cette matière en un tourbillon émotionnel sur le deuil et la solitude.
Catherine,
Wow. Est-ce que ça donne envie, ça?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas à moi, là, au moment où vous me posez la question, mais est-ce que vous êtes vous-même parfois surprise des commentaires qui sont faits sur les films dans lesquels vous jouez ou sur votre travail?
Je ne lis pas beaucoup les critiques depuis déjà un certain temps.
Oui.
Et finalement, j'ai dit que je voulais lire les critiques que si elles étaient bonnes et si elles sont mauvaises, que si vraiment ça pouvait m'apporter quelque chose.
Oui.
Mais ça, c'est rare quand même.
Ce qui est rarement le cas.
Oui. Mmh.
Loïc, pardon, on vous a interrompu.
Non, tu ne dis pas que c'est banal, par exemple, et qu'on l'a déjà
dit. Quoi, on dit
tu
quoi
dis, le réalisateur radicalise les immobilités.
J'aime bien celle-là.
Elle est bien, hein?
Oui, oui, c'est
on
bien.
On peut s'en servir dans la vie simple, en plus.
Ou alors, moi, j'adorais celle-là. Le réalisateur amadoue l'éternité.
Wow. Oh, wow. Est-ce que l'éternité est consentante?
Méga programme. Ouais. Tu ne dis pas le film n'est qu'un long hurlement expérimental. Tu dis grâce à un dispositif primaire, la réalisatrice opère un réajustement du réel où la folie n'est plus une vague idée marginalisée, mais une donnée tangible du monde qu'il faut accueillir pour mieux l'exorciser.
D'accord. Je préfère quand même Rainer Maria Rilke et ses propositions, je veux dire, de philosophiques. Parce que vraiment, c'est d'un...
On peut rester avec Rainer Maria Rilke? Vous ne prenez pas mal?
J'en avais une bonne, sinon
bon,
c'était...
Allez, une
il ne se passe absolument rien. Tu dis, le réalisateur fait du bleu du ciel le ciment de son film.
Bleu du ciment, ça va pas très bien ensemble, celle-là.
Ouais, c'est beau, ça me plaît. Merci, merci infiniment Loïc Prigent. Et revenez très très vite nous voir, je vous en supplie. Mais bisous, joues, bien sûr. Alors, on approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Alors, je n'ai pas réussi encore à trouver la trappe pour descendre à la cave cette année, parce qu'ils ont mis une nouvelle moquette, mais j'ai un ascenseur. Hé, hey, je l'appelle. Il est beau, mon ascenseur. Ah bah tiens, il y a un bouton avec marqué Dieu. C'est quoi, ça? Dieu? C'est vous?
En personne.
Waouh! Mais qu'est-ce que vous faites dans mon ascenseur?
J'ai un cadeau pour toi.
Ah oui?
Oui. On m'a dit que tu étais un fidèle serviteur du boss. Pas moi, l'autre.
Oui, boss, bien sûr.
Lui-même.
Oui.
Il est passé boire une bière avec moi hier.
Ah bon?
Et m'a donné un cadeau pour toi. Un morceau en exclu.
Un morceau en exclu? Un inédit de Bruce? Oh, mais c'est un cadeau divin, ça! Merci!
De rien. Attends.
Oui?
Tu as Catherine Deneuve dans ton studio?
Oui, oui, elle est là, juste en face de moi, oui.
Dis-lui que je la kiffe à donf!
Dieu, quand même!
Stand.
I'll Stand By You, c'est un morceau inédit de Bruce Springsteen à retrouver sur la BO du film Music of My Life, l'histoire d'un adolescent qui apprend à vivre, à comprendre sa famille, à trouver sa propre voix grâce à la musique de Bruce.
Ce qu'on appelle un biopic, Antoine.
Ça sort le 11 septembre, Bruce et Deneuve dans le même pop-pop-pop. Il y en a un dans ce studio qui est sur un petit nuage. Merci Catherine Deneuve, merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que Fête de Famille, le film de Cédric Kahn, sort ce mercredi et que vous serez présidente du Festival du film américain de Deauville à la fin de la semaine. Merci à toute l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Nicolas Delmas, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le rédacteur en chef de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet, vient nous présenter ses mémoires et avec lui, Guédré sera sur la scène de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent les copines modeuses de Loïc Prigent à la fin de leur tuto contouring sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
Qui vient donc du Sud.
Sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615. Pop, pop, pop. Sur Instagram et Twitter.